Il est 7h.
Le nombre d'entrées est de 359 patients graves en réanimation. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation qui est l'élément le plus important à surveiller.
Données importantes que souligne le directeur général de la santé. On jugera ainsi l'efficacité du confinement dans les jours qui viennent. Quelle situation en réanimation ce matin? Nous appellerons le chef du service à l'hôpital de Garches. La magie d'une naissance n'est vraiment plus la même en période de confinement. Ces jeunes parents craignent de ne pas pouvoir vivre ce moment ensemble.
C'est une grosse angoisse. De stresser comme ça, c'est même pas bon pour le bébé.
Moi, je vais pas pouvoir être avec ma femme pendant les 3 premiers jours de vie de ma fille. C'est un petit peu douloureux, quoi.
L'épidémie est-elle en train de changer l'attitude du chef de l'État? Oui, nous dira Michael Darmon. Il ne peut plus tout décider seul et doit accepter de déléguer. Les Pays-Bas expérimentent une solution originale pour connaître le niveau de contamination au coronavirus, tester les eaux usées. Et puis, pâte, purée, pizza, si c'est votre genre de menu, faute d'idées ou de talent culinaire, d'autres ont la chance d'être confinés avec un chef.
C'est vrai qu'un gratin fait par Stéphane et un gratin fait par moi, même si j'adore cuisiner, ça va pas être le même ressenti à la sortie, quoi. Donc la différence, c'est là quand même.
Juste après ce journal, Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, répondra à toutes vos questions. Et votre invité à 7h40, Mathieu.
C'est le patron de Rungis, le marché international de Rungis en pleine crise, mais tellement nécessaire pour nourrir les Français. Impact du coronavirus, opération Rungis livrée chez vous qui démarre ce matin. Il sortira d'une réunion de crise à 7h40. Stéphane Layani, président de Rungis.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les lits en réanimation multipliés par 3 pour atteindre 14 000, plus de 5 milliards de masques commandés à la Chine, 80 000 tests par jour d'ici la fin avril. C'est le plan de bataille promis par le gouvernement pour faire face au nombre de malades qui ne cessent de s'accroître dans les hôpitaux. 20 000 à l'heure actuelle dans toute la France. Mais pour le directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, ce qui compte avant tout, c'est le nombre de patients admis chaque jour en réanimation.
Le nombre d'entrées est de 359 patients graves en réanimation. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation qui est l'élément le plus important à surveiller pour prédire notre capacité à prendre en charge les malades les plus graves, mais surtout parce qu'il reflète la cinétique, la dynamique de l'épidémie et son impact le plus préoccupant. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation que nous allons analyser pour évaluer l'impact initial du confinement national dès la fin de cette semaine. Si, à compter du confinement strict observé, il y a eu moins de contacts entre les personnes, si le virus s'est donc moins transmis, nous devrions observer une réduction du nombre de personnes nécessitant une admission en réanimation à partir de la fin de cette semaine.
Le directeur général de la santé au micro Europe 1 de Nicolas Feldman.
Bonjour professeur Djilali Annane.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. L'info ce matin, c'est le bilan du week-end, bien sûr. La perspective de ce début de semaine. Professeur, dans une interview datée de vendredi, vous disiez ne déjà plus avoir de place depuis 3 jours. Comment se sont passées ces dernières heures? Est-ce que votre service tient?
Écoutez, notre service tient, même si la situation est très compliquée, puisque nous avons beaucoup plus de sollicitations que de places à offrir à nos patients. Le fait d'être à saturation veut dire qu'effectivement, lorsque une ou deux places se libèrent dans la journée, elles sont quasiment occupées dans la demi-heure. Et donc, pour une place disponible, nous avons en moyenne 6 à 10 propositions.
Mais ça veut dire qu'il y a des... Pardonnez-moi, mais est-ce que les malades, ils ne restent pas sur le carreau, les 6 à 10 propositions déçues?
Ça veut dire qu'en région Île-de-France, ces patients sont ensuite proposés à d'autres réanimations, mais qui vont être dans la même situation que moi. Donc moi, je suggère quand même, par rapport à l'annonce du directeur général de la Santé, certes, l'indicateur du nombre d'admissions en réanimation est important, mais il faudrait également suivre l'indicateur du nombre de patients refusés en réanimation, parce que sinon, on risque de sous-estimer la situation.
Pardonnez-moi, Djilali Annane, je ne m'attendais pas à ces propos. Sincèrement, il y a des Français aujourd'hui qui n'ont pas accès à la réanimation alors qu'ils en ont besoin.
Par exemple, dans le Grand Est, on le voit depuis maintenant plus d'une semaine, et cela commence à arriver en Île-de-France. On a été nous-mêmes confrontés à ça. Donc, par exemple, depuis que nous sommes à saturation, c'est plus de 60 patients que nous avons refusés. Donc, comme on n'a pas de traçabilité de ces patients...
Vous ne savez pas où ils sont?
Je ne sais pas où ils sont.
D'accord.
Et donc, il est fondamental que cet indicateur soit également suivi par le ministère.
Il faut suivre ce facteur et on va le suivre bien sûr. Alors vous êtes en première ligne, Djilali Annan, pour observer l'évolution de la situation, de l'épidémie. Je vous pose la question, quel est le profil de ces cas graves que vous observez en réanimation? Des hommes, des femmes, des jeunes?
Alors ça reste un peu plus d'hommes que de femmes. L'âge médian reste de 60 ans, c'est-à-dire que plus de la moitié des patients ont moins de 60 ans. Dans notre service, le plus jeune a 28 ans. Et on a pratiquement deux tiers de patients qui ont moins de 55 ans.
Merci beaucoup, Djilali Annan, professeur Djilali Annan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, en direct dans ce journal de 7 heures sur Europe 1.
Et le professeur Annan l'évoquait, les hôpitaux de la région Grand Est sont toujours submergés. Une cinquantaine de patients ont pu être évacués ce week-end en TGV médicalisé, en hélicoptère de l'armée et même par un avion militaire allemand.
Ce devrait être le plus beau jour de leur vie. Imaginez, pourtant, l'angoisse est grande pour toutes les femmes, les futures mamans qui doivent accoucher toute seule.
Oui, elles sont bien obligées d'accepter la mesure de précaution préconisée dans de nombreuses maternités. Laura est dans son dernier mois de grossesse avec Clément, son mari. Ils attendent leur premier bébé, une fille. Pour le jeune couple, ne pas vivre ensemble ce moment magique est un crève-cœur.
Moi, ça serait un déchirement. Me dire que je l'emmène en voiture et que je rentre tout seul à la maison et pendant trois jours, je vois pas ma fille ni ma femme.
C'est une grosse angoisse. Moi, j'y pense tout le temps, tous les jours. Vraiment, ça me met dans des états horribles. Et après, je sais qu'en plus, de stresser comme ça, c'est même pas bon pour le bébé. Donc, je me dis que vraiment, je dois mettre en plus des ondes négatives. Donc, c'est pire que tout.
A priori, on a quand même le droit d'avoir un téléphone portable. Donc, au moins, pouvoir la rassurer avec ma voix. Et puis moi, savoir comment ça se passe, où ça en est, etc.
Et puis après, dans la maternité, une fois l'accouchement fini, là, en revanche, c'est sûr qu'il ne sera pas accepté.
Que moi, je ne vais pas pouvoir être avec ma femme pendant les trois premiers jours de vie de ma fille, c'est un petit peu douloureux, quoi. On fera avec les moyens technologiques, WhatsApp, des petits FaceTime, pour essayer de créer un peu de lien, et puis pour rassurer aussi Laura, parce que j'imagine, je me mets à sa place, mais deux, trois jours à maternité pour un premier enfant, nettoyer le cordon, comment savoir quand elle pleure, ce qu'elle a.
De le savoir à côté, c'est quand même hyper rassurant.
C'est une aventure un peu unique et on n'est jamais vraiment totalement préparé.
Laura et Clément, témoignage recueilli par Jeanne Bergaoui.
Un de ces effets très concrets du confinement, justement, les accouchements. Vous voulez témoigner, vous avez connu cette situation, vous êtes peut-être en train de la connaître. 3921 et le hashtag Radio Ouverte.
Trois syndicats de chauffeurs routiers, CFDT, FO et CFTC, appellent au droit de retrait à partir d'aujourd'hui en cas de manquement aux mesures de protection sanitaire. Ils dénoncent le manque de gants, de masques, de gel hydroalcoolique, mais aussi de sanitaires accessibles et de services de restauration. Attention, si vous devez sortir. N'oubliez pas votre attestation. L'amende est toujours à 135 €, mais à partir d'aujourd'hui, elle passe à 200 € en cas de récidive dans les 15 jours.
7h08 sur Europe 1. En cette période de méfiance accrue envers l'exécutif sur la gestion de l'épidémie, Emmanuel Macron est en train de changer son mode de fonctionnement.
Oui, c'est votre fait politique du jour, Michaël Darmon. Face à la crise, le président est bien obligé d'accepter de déléguer. Pour quelle raison ?
Parce que la crise du coronavirus est trop grave pour la laisser entre les seules mains présidentielles. La France compte déjà 2600 morts et comme l'a dit un de ses conseillers au président dès le début de l'épidémie, on ne pourra pas s'en sortir si on ne change pas la méthode. Et effectivement, la méthode présidentielle a beaucoup évolué. Emmanuel Macron sait qu'il n'est pas compétent sur le terrain médical alors qu'il y a des décisions lourdes à prendre. D'où les comités scientifiques rassemblés autour du chef de l'État pour l'aide à la prise de décision sur le plan sanitaire. Emmanuel Macron a donc appris à déléguer et ça marche, rien à voir avec la méthode de la réforme des retraites où le président voulait décider de tout. Ces comités vont donc se multiplier. Il y a déjà les médecins, les scientifiques et les religieux. Le chef de l'État a l'intention de former des comités pour les questions juridiques et économiques. Emmanuel Macron passe donc de l'hyper-présidence à l'hyper-concertation. Il laisse la gestion quotidienne de la crise du confinement à Édouard Philippe qui a annoncé d'ailleurs le nouveau calendrier du confinement, ce que devait faire le président à l'origine. Emmanuel Macron reste le patron, c'est du calme au de la fin. Mais ces comités sont en train de prendre le pas sur les ministres au risque de marginaliser un gouvernement qui a déjà du mal à convaincre les Français.
Michaël Darmon pour le fait politique du jour. Notez aussi que le Conseil d'État a débouté deux syndicats de soignants qu'il avait saisis en référé pour réclamer notamment des masques, des tests de dépistage et l'autorisation pour les médecins de prescrire de la chloroquine aux patients à risque.
L'État demande aux entreprises de ne pas verser de dividendes si elles bénéficient d'aides publiques. C'est votre éclairage éco ce matin. Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Un sujet hautement sensible.
Ben oui, parce que les entreprises qui bénéficieront cette année de reports de charges ou d'impôts ou d'une garantie d'État sur leurs prêts ne pourront verser de dividendes. Question de justice, selon le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Hier soir, l'AFEP, l'association qui réunit les 110 plus grandes entreprises françaises, a accepté cette décision, mais pas de gaieté de cœur. D'abord parce que les actionnaires viennent de subir un krach boursier. La crise leur a coûté très cher. Aussi parce qu'il est stratégique d'avoir des actionnaires français pour contrôler le capital de nos entreprises. Or, pour ça, il faut qu'ils y trouvent un intérêt, c'est le sens même du dividende. Et puis enfin, n'oublions pas que beaucoup de patrons, notamment de PME, se payent en dividendes et non en salaire, et on voit mal comment on pourrait les en priver.
Mais le patronat a accepté l'effort demandé par le gouvernement ?
Oui, parce que les entreprises sont sensibles à leur rôle social, à leur raison d'être, comme on dit, et sensibles au fait que verser des dividendes durant cette période pourrait être mal compris. Reste que supprimer la rémunération du capital a aussi une conséquence, ça fait fondre la valeur des entreprises cotées en bourse. Elles deviennent ainsi plus facilement des proies. Si la suspension des dividendes devait se traduire par plus de prise de contrôle à un moment où on cherche à renforcer notre souveraineté économique, nous n'aurions rien gagné. Bruno Le Maire serait le premier à le regretter.
L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1. Les États-Unis face à la gravité de l'épidémie, c'est aujourd'hui le pays qui compte le plus de cas au monde. Et selon les projections, le bilan final pourrait atteindre 100 à 200 000 morts.
Oui, d'ailleurs, Donald Trump fait marche arrière sur un éventuel allègement des restrictions. La semaine dernière, il espérait faire redémarrer l'économie avant la mi-avril. En Grande-Bretagne, pessimisme également des autorités sanitaires. La population ne retrouvera pas une vie normale avant 6 mois. Tandis qu'aux Pays-Bas, il n'y a toujours pas de confinement, en dépit des 10 000 contaminations et des 771 décès. En revanche, l'Institut national de la santé publique propose de tester les eaux usées, une piste prometteuse pour détecter la progression du virus, Isabelle Horry.
Oui, les chercheurs sont partis d'un constat. Quand quelqu'un est contaminé par le Covid-19, le virus se retrouve régulièrement dans ses selles, qu'il ait ou pas des symptômes. Dans ce cas, le virus sera évacué avec l'eau des toilettes et il finira à la station d'épuration locale. Depuis la mi-février, l'Institut pour la santé publique, référence pour le coronavirus aux Pays-Bas, mène donc des tests, par exemple à la station d'épuration de l'aéroport international d'Amsterdam. D'abord négatif, les prélèvements sont devenus positifs le 2 mars. 4 jours seulement après le premier cas diagnostiqué dans le pays, le professeur de Roda Usman dirige cette recherche.
Si vous trouvez le virus dans les eaux usées d'une commune où aucun cas symptomatique n'a encore été notifié, cela vous permet de savoir qu'il circule déjà dans la population. Et puis une fois que le gros de l'épidémie sera passé, cela permettra aussi d'avoir un système d'alerte précoce pour détecter un éventuel retour du virus.
Les Pays-Bas vont étendre ces tests d'eau usée. Cela ne remplace pas le dépistage systématique des individus, met en garde la biologiste, mais c'est un outil en plus dans la panoplie. Cela peut permettre aux autorités de mieux anticiper les besoins et les risques dans une zone donnée.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
Et c'est un casse-tête quotidien pour bon nombre d'entre nous. Quel nouveau repas imaginer à midi, le soir ? Pas évident de se renouveler si on veut éviter le tout prêt et qu'on n'est pas le roi des fourneaux.
Ah oui, pour certains, en revanche, c'est le restaurant qui s'invite à la maison. Un vrai chef en cuisine, ce n'est pas du tout la même histoire. Pierre Herbulot.
Risotto d'asperges, poitrine de cochon à la broche, gratin de pommes de terre, ce n'est pas le menu d'un restaurant. C'est un dîner classique depuis 15 jours pour Sylviane Buron. Son mari, Stéphane, a 2 étoiles au guide Michelin.
C'est vrai qu'un gratin fait par Stéphane et un gratin fait par moi, même si j'adore cuisiner, ça ne va pas être le même ressenti à la sortie, quoi. Donc la différence est là quand même.
Avant le confinement, le chef ne s'occupait jamais des repas à la maison. Il a carrément découvert sa cuisine.
C'est-à-dire qu'il me disait où sont les poêles, où sont les casseroles. Tu as... Alors je dis oui, j'ai tout ça. Viens, je vais te faire voir. Donc il a découvert la cuisine. Il s'est dit mais on est très très bien équipés. Je lui ai dit mais oui, effectivement, nous sommes très bien équipés.
Pareil pour Guillaume Goupil, lui aussi étoilé. Il profite de la fermeture de son restaurant gastronomique pour essayer des nouvelles recettes avec sa compagne Rebecca.
En faisant du jardinage, je suis tombé il y a quelques jours sur un gros endroit avec beaucoup d'orties. On en a fait une soupe. Et une autre partie qu'on a cuit comme des épinards et qu'on a mis dans des ramequins avec un petit œuf cocotte.
C'était absolument fumé. Délicieux, c'était un régal.
Effet garanti.
Ah bah oui, encore plus amoureuse.
La chance, hein, vous vous dites, c'est parce que vous n'imaginez pas la quantité de sport à faire à côté pour garder la ligne.
Pierre Herbulot. C'est vous le chef à la maison, non ?
Oui, et c'est vous chez vous, je crois, aussi. Hélène Zelani. Voilà. Petite dorade au four ce week-end. J'ai eu la chance de tomber ça sur ma sortie hebdomadaire au supermarché, hein, puisque ce sont les sorties auxquelles on a le droit désormais. Merci beaucoup Hélène Zelani. C'était le journal de 7h à 7h30. Nous allons retrouver Jérôme Lacroix tout à l'heure sur Europe 1, 7h15.